We Do Biz, premier sur les entrepreneurs.
Les entrepreneurs bougent, créent, partagent sur We Do Biz.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Thomas Benzazon et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour votre émission en direct Entrepreneur le Live. Ça y est, après de longs mois de discussion, les représentants du patronat et des salariés se sont entendus sur les contours d'un accord pour sécuriser l'emploi. Il y a quelques jours encore, peu auraient parié sur un tel accord que la majorité des commentateurs qualifient désormais d'historique. Quels étaient les enjeux d'un tel accord? Quelles en seront les conséquences dans nos entreprises? Quels sont les sujets qui ont été oubliés? Voilà toutes les questions auxquelles nous tâcherons de répondre aujourd'hui. Nous avons intitulé cette émission « Emploi pour tous, les coulisses de l'accord, patronat, syndicat ». Et sur le plateau de We Do Biz, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Françoise Leflon, secrétaire nationale chargée de l'emploi à la CFE-CGC et présidente de l'APEC. Vous avez pris part aux négociations sur l'accord. On va avoir le plaisir de retrouver Éric Malenfer, président du groupe J'Expertise, 80 salariés, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a participé au comité et session d'e-miroir pour donner le point de vue des PME au MEDEF. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Je le rappelle, c'est du direct et je rappelle également à nos auditeurs qu'ils peuvent partager, commenter et bien évidemment compléter ce que peuvent dire nos invités sur les comptes Twitter et Facebook de We Do Biz. Alors, Marie-Françoise Leflon, du coup, on va démarrer ensemble. L'enjeu de cet accord était-il aussi important que ce qu'on a pu entendre, historique?
Alors, j'oublierai le mot historique parce que c'est l'histoire qui fera l'accord et non pas l'inverse, mais il est très emblématique de ce que peuvent faire les partenaires sociaux ensemble et ce qu'ils peuvent réussir. Et ça, si cette image du dialogue social peut changer en France, et comme vous dites, pour l'emploi pour tous, alors là, moi, individuellement et personnellement, j'en suis heureuse.
Alors, peut-être qu'on l'a qualifié d'historique parce qu'on n'imaginait pas syndicats, patronats se mettre d'accord sur autant de propositions.
C'est un accord d'envergure parce qu'effectivement, pour la première fois depuis de très longues années, il va changer l'équilibre entre ce qui est un droit du travail écrit par des législateurs, et ce qui est une réalité quotidienne de l'emploi et la manière de le faire évoluer. Et pour ça, c'est très important parce qu'il aborde l'emploi dès le démarrage de la vie professionnelle et jusqu'à la fin de la vie professionnelle. Ça s'appelle sécurisation de l'emploi et au fond, si cet accord peut y concourir, c'est ce que nous recherchons.
Alors au final, cet accord porte bien son nom?
Oui, on l'a légèrement modifié, donc il s'appelle plus sécurisation de l'emploi, mais d'accord de compétitivité et de maintien de l'emploi. Pour la CFE-CGC, c'est effectivement la synthèse qu'on souhaitait réaliser.
Concrètement, cet accord a-t-il été difficile à mettre en place? Est-ce qu'on s'est bagarré en coulisses?
On s'est bagarré en coulisses.
Avec le patronat, là je parle pour vous, syndicat CFE-CGC, mais aussi entre syndicats de salariés.
Oui, on n'a jamais eu de clivage parce que on concourt au fond à la même finalité, sauver le maximum d'emplois, rendre les conditions de travail plus faciles et effacer cette angoisse permanente du salarié dans son entreprise et dans l'emploi. Simplement, c'est vrai que ça a été un accord difficile parce que les positions, tant dogmatiques que réalistes, elles étaient tellement opposées que pour construire quelque chose, il a fallu gravir une montagne d'étapes et d'étapes, et de chacun faisant des concessions importantes.
Alors comment on a fait, vous parlez de dogme, comment on a fait pour les dépasser?
Je pense par la volonté d'arriver à quelque chose pour les 3 millions de chômeurs, hein, je veux dire, ou pour l'emploi des jeunes. Il y a 22% de jeunes qui n'arrivent pas à rentrer dans l'emploi. Il y a des millions de contrats qui se font sur des contrats courts. Il y a 90% des embauches qui ne se font que via des contrats courts. Alors, comment vous voulez dessiner des avenirs professionnels si vous ne prenez pas tout avec toutes vos forces pour arriver à dépasser les dogmes et construire quelque chose de réel, de concret? On n'y gagne pas tous les coups, on perd aussi des choses, on n'a pas tout ce qu'on veut, mais au moins, on le construit.
Est-ce que vous pensez que les syndicats non signataires sont restés braqués sur ces dogmes?
Je dirais que c'est eux qui vous répondront mieux que moi, parce qu'ils sont quand même des collègues à moi autour d'une table de négociation, et que chacun nourrit la réflexion malgré tout, et qu'on a le respect les uns et des autres, et donc qu'on les écoute. c'est de leur propre responsabilité, c'est de leur propre position. Cela dit, il faut aussi du courage pour les syndicats comme la CFE-CGC qui a voulu aller dans le sens de la construction. Et il faut affronter cette image, hein, parce qu'on va chambouler malgré tout beaucoup de choses. On va égratigner le code du travail au passage, on va libéraliser des choses pour gagner des sécurités. Il faut du courage pour y aller, hein, quand vous recevez des textos, t'es une vendue, quand vous recevez pages de choses disant surtout ne signe pas, surtout ne signe pas, quand vous présentez le projet à vos fédérations professionnelles en ayant essayé de porter leurs valeurs mais en n'étant pas sûr quand même de la façon dont ils vont l'accepter et dont ils vont le porter après, c'est une grosse responsabilité.
Très bien, alors on a le plaisir de retrouver, je vous le rappelle, nous sommes en direct et Éric Malenfer nous rejoint, bonjour à vous.
Bonjour, excusez mon retard.
Aucun souci, ça fait seulement 5 minutes. Nous étions en train d'évoquer avec Marie-Françoise Leflon la question d'un accord historique ou non. Au MEDEF, et en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous doutiez de l'arrivée, de l'issue d'un tel accord ?
Effectivement, c'est un accord important. Il est important. Alors moi, je n'ai pas de mandat particulièrement au MEDEF. Je suis un des entrepreneurs, un des adhérents, et je fais partie du comité TPE-PME. Nous nous demandions si cet accord allait aller suffisamment loin, s'il allait toucher uniquement des avantages d'un côté pour les uns ou pour les autres. On était très satisfaits de voir qu'en fait il était très large. Beaucoup, beaucoup de sujets ont été mis sur la table. On a enfin réfléchi à une logique d'entreprise et l'intérêt de tout le monde. Donc tous les sujets ont été balayés, alors avec plus ou moins de bonheur. Hein. De toute façon, chacun y trouvera un petit peu ce qu'il a envie d'y trouver. Et puis il faudra beaucoup, je pense, de pédagogie pour expliquer comment doit évoluer l'accord, parce que pour l'instant, c'est un accord qui est juste signé. Sa mise en œuvre, c'est encore une deuxième étape.
Alors Éric Malenfer, Marie-Françoise Leflon et évoquait la question des dogmes qui ont été dépassés, en tout cas pour un certain nombre de syndicats. Vous avez le même sentiment ?
Je pense qu'on a raisonné enfin entreprise et pas uniquement avantage acquis. Quand je parle de l'avantage acquis, c'est quelque chose... on est dans un pays où l'immobilisme a nuit énormément. La discrimination à l'embauche des jeunes, par exemple, c'était purement le fait de dire la personne qui est en place est toujours prioritaire pour toute autre personne, quel que soit l'intérêt tant de l'entreprise que l'intérêt des salariés eux-mêmes. Et enfin, on s'est rendu compte qu'en fait, on est une collectivité. Une société, c'est les membres qui la constituent. Et ça n'est pas uniquement un patron et des salariés, mais les salariés entre eux aussi ont une attitude à avoir qui est bonne pour eux. Donc, si vous voulez, après, il faudrait reprendre tous les points de l'accord.
On va y revenir.
On a réfléchi, si vous voulez, dans ce qui concerne la mutuelle, dans ce qui concerne beaucoup de choses comme ça. On a enfin eu une réflexion qui était beaucoup plus d'homogénéité, si vous voulez, de traitement des gens, ce qui est quand même une excellente chose. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait des discriminations là-dessus. Mais en même temps, on a donné une certaine souplesse, puisque le mot flexibilité, paraît-il, est un gros mot. Ce n'est pas du tout pour moi, hein, parce que la flexibilité, c'est l'adaptation de l'entreprise à son marché. Mais on a enfin donné quelques petites règles. C'est le début.
C'est un début de flexi-sécurité, comme on aime le dire. Marie-Françoise Leflon.
Alors, d'abord, il faut oublier de dire que c'est pas un gros mot, c'est simplement que lorsqu'on emploie le mot flexibilité, il y a une réaction immédiate qui constitue à entraîner une peur chez le salarié qui puisse être licencié sans précaution. Donc notre rôle, nos partenaires sociaux, et la CFE-CGC l'a prouvé puisqu'elle a essayé d'accompagner chacune des mesures en fonction du niveau de difficulté économique de vos entreprises. La seule chose, c'est que ce mot-là est connoté avec un système des pays du Nord que nous ne savons pas mettre en place et qui ne correspond pas à notre culture. Autant rester au plus près du vocabulaire et de dire effectivement, on peut sécuriser l'emploi tout en vous donnant un marché plus fluide.
Alors, on observe que même sur la question du vocabulaire, il y a des choses sur lesquelles vous êtes en désaccord, sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Au final, j'imagine que ça devait être à peu près la même chose sur tous les sujets de discussion. Donc, diriez-vous que ce que vous avez obtenu était suffisant de part et d'autre ? Est-ce que vous avez obtenu tout ce que vous espériez dans ces négociations ?
Je suis peut-être plus demandeur, mais en fait, je pense que les salariés ou les collaborateurs étaient aussi très demandeurs de savoir tous ces mouvements qui vont se réunir ensemble sans les politiques. Il faut quand même remarquer que ça fait des années que tout ça s'est préparé. C'est pas sorti en deux mois. C'est parce qu'il y a eu une évolution dans le dialogue par les syndicats. Les syndicats se sont mis à beaucoup plus se parler entre eux. Donc tout ça, c'est très positif et il faut qu'on continue à être comme ça. Il faut que les syndicats arrêtent de faire un clivage patron-salarié. On a tous besoin les uns des autres. De toute façon, ça peut pas marcher l'un sans l'autre. Je voudrais juste revenir...
Tous les patrons n'ont pas confiance dans les syndicats quand vous venez...
C'est bien dommage parce qu'en fait, si on n'a pas de représentation syndicale, on n'a personne avec qui parler. C'est de la même façon que quand on a des délégués, c'est le meilleur moyen dans l'entreprise pour pouvoir avoir la discussion. Et d'ailleurs, vous avez soutenu avec force et conviction la présence de salariés auprès de conseils d'administration ou de choses comme ça. Bien entendu, ça peut faire peur dans le mode de fonctionnement. Mais en soi, le fait qu'il n'y ait plus de communication, on a eu même des coups de gueule entre nous à dire. Certains disaient « oui, mais on l'en dit bien suffisamment ». Et puis d'autres, dont je faisais partie, disaient « le fait de s'engager, de dire quelle va être la stratégie de l'entreprise, c'est normal ». On ne peut pas considérer qu'en tant que patron, on n'est pas à s'engager pour son entreprise. Maintenant, derrière, il y a des choses stratégiques qu'on ne doit pas avoir à dire. Puisqu'on a besoin de confidentialité, on a besoin d'être sûr. Il y a la concurrence, il y a des attitudes pas toujours très loyales de certains collaborateurs. Donc il y a une intelligence économique à conserver. Mais pour autant, sous certaines règles, je pense que c'est une excellente chose qu'il y ait plus de dialogue social.
Pour la CFE-CGC, je confirme parce qu'il se trouve que c'était un des points durs portés par la CFE-CGC qui voudrait inverser la tendance et qui voudrait qu'effectivement toutes les solutions trouvées dans l'entreprise passent par un dialogue social en amont, ce qu'on a essayé de prôner à chacune des étapes, mais ça passait par la représentation d'administrateurs salariés dans les instances de gouvernance. Ensuite, ça passera par la négociation d'accords au niveau des entreprises. C'est quelque chose de très important. Et la confiance n'est pas masquée par ces problèmes de confidentialité parce que les quelques expériences qu'on a d'administrateurs tiennent parfaitement leur rôle.
On va revenir sur le détail des grands dispositifs qui ont été négociés.
Et
effectivement, mais tant mieux. J'aimerais qu'on reste rapidement, malgré tout, sur les enjeux. Au-delà de l'emploi, est-ce que l'enjeu, c'était quand même de montrer qu'on pouvait dialoguer ensemble dans ce pays entre patronat et syndicats?
J'espère qu'on l'a prouvé.
Je pense que c'était à la fois l'enjeu et le danger. Il était, et c'est pour mes amis entrepreneurs, je vais les considérer comme tels, tant MEDEF, CGPME, UPA, etc. On est tous dans le même bain. On a tous des entreprises, on veut les faire vivre, et les personnes qui sont dedans, on y tient énormément, on leur serre la main tous les matins. On avait tous une seule crainte, c'est que si jamais, et c'était un petit peu le challenge de la part du gouvernement, c'est si on ne trouvait pas un accord, que le gouvernement vienne légiférer sur des choses qu'on ne discuterait pas, et on a pu voir que quelquefois ça peut être un peu brutal. Donc grâce à ça, ce sera sans doute moins brutal et beaucoup plus positif pour l'ensemble des entreprises. Et puis ça recrée du dialogue, c'est nécessaire.
Et surtout, on peut trouver les mesures qui sont adaptées à la situation structurelle ou conjoncturelle de l'entreprise. C'est ça qui est important, c'est que le marché du travail, il ne pourra fonctionner que si on colle aux réalités. Donc se faire imposer une loi, c'est vrai que c'était pas la position de la CFE-CGC, parce que d'abord, c'est toujours partiel, c'est sur le langage des juridiques, et ça n'a rien à voir avec une réalité du terrain que je considère que les partenaires sociaux connaissent mieux que quiconque.
Donc au final, la méthode Hollande a fonctionné?
Oui, mais sans du tout faire de politisation de la chose, parce que je pense que ce serait dommage. Je pense, oui, le dialogue, c'est quelque chose qui fonctionne. En même temps, n'oublions pas que M. Hollande bénéficie de 5 ans de mise en œuvre de cela de façon très discrète. Il y avait peut-être une certaine brutalité dans certaines annonces, mais derrière, il s'est fait beaucoup, beaucoup de choses qui a fait qu'au final, autour de tables de négociation, beaucoup de choses se sont créées qui aboutit à ça aujourd'hui. Donc oui, la méthode en tout cas de dialogue, c'est une méthode qui fonctionne.
Donc revenons sur ce qui se serait passé en cas d'échec de ces discussions. D'une part, le gouvernement aurait donc pris des décisions. Vous, du côté de la CFE-CGC, ça vous faisait peur également des dispositifs uniquement décidés par le gouvernement?
Oui, parce que de toute façon, elles sont toujours arbitraires, elles sont toujours aléatoires, elles sont toujours... à revoir au fur et à mesure de la durée. Enfin, la conjoncture, depuis le 2008, quand même, elle donne des à-coups aux chefs d'entreprise, elle en donne aux salariés, et ce n'est pas une loi qui peut imaginer les choses, donc pas de possibilité de repli. Là, on a ouvert, au travers de cet accord, via la négociation des accords à chaque fois, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour la baisse de compétitivité, on est plus réactif, on accompagne mieux le terrain. Ce n'est pas la loi qui fait ça. Et en plus, si on veut construire un vrai dialogue social sur les modèles qui sont prônés quand même, étant au niveau de l'Allemagne, étant au niveau des pays du Nord, on ne peut pas toujours nous les prendre en exemple et nous empêcher de faire nos premières marches à nous. Et je considère d'une certaine manière, on a été même plus moderne qu'eux.
Alors du coup, quand même, si on doit résumer et faire un premier bilan, hein, alors que ce n'est que le début de l'accord malgré tout, diriez-vous que cet accord sur l'emploi permettra d'inverser la courbe du chômage avant fin 2013, comme l'espère François Hollande ?
Alors, si je peux vous répondre, excusez-moi Françoise, mais déjà, juste pour vous répondre sur votre question précédente, notre grande crainte au départ, c'est que ça s'est appelé la sécurisation de l'emploi, en gros le verrouillage de l'emploi, et non pas la sécurisation de l'employabilité. Donc on avait une énorme trouille, si vous voulez, c'est que c'était encore plus de verrouillage. Et c'est vrai que s'il y avait une loi, entendez bien ce qui s'est passé pendant la campagne. Interdiction de licenciement, obligation de toujours continuer tel qu'on est, quelle que soit la circonstance. Tout ça, on a évité ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut voir. L'ensemble des partenaires sociaux ont réussi à discuter sur, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, une situation économique particulière qui, en fait, est très brutale en ce moment, mais existe depuis de très longtemps. Simplement, la France a pris un véritable retard sur certaines choses économiques, tout simplement parce qu'elle ne s'adaptait pas. Aujourd'hui, on est rentré dans une logique où on va peut-être enfin se dire « s'adapter, c'est bien ».
Enfin, je voudrais dire qu'on l'a gagné, qu'on a bataillé quand même. Parce que sous ce titre soft, sous ce débat aujourd'hui très tranquille, la démarche du patronat et la démarche des organisations salariées, au départ, c'est vrai que nous souhaitons créer toutes les conditions de l'emploi, mais en même temps, vous considériez, vous, patronat, que ça passait par une facilité à licencier d'abord. Donc il a fallu qu'on parcourt ce grand chemin l'un vers l'autre, où ça passe pour vous par une aptitude à licencier et ça passait pour nous par une aptitude à sécuriser les parcours.
Je reviendrai voilà. Sur ma question précédente, mais du coup, est-ce que vous diriez pas que finalement vous vous êtes simplement compris les uns les autres et qu'on partait avec beaucoup de...
On s'est pas encore compris surtout, ouais. Loin de
on
là.
On est allé l'un vers l'autre.
On est allé l'un vers l'autre, c'est ça. Si on arrive maintenant à comprendre derrière, vous voyez le discours qui est effectivement, si un patron considère que l'adaptation de sa société ne commence que par le licenciement, et que c'est la seule variable d'ajustement, clairement, il risque de se tromper. Malheureusement, c'est souvent le cas. Disons que c'est la variable la plus compliquée, c'est celle qui fait le plus souvent couler des entreprises. Donc, ce que les patrons de TPE et PME, c'est plus de 90% des entreprises du MEDEF, quand même, ne l'oublions pas, c'est essentiellement des petites entreprises et des moyennes entreprises, veulent dire, c'est n'oublions pas que embaucher, c'est une action positive, débaucher, peut-être une action positive, puisque quelquefois, ça va être pour embaucher mieux, pour monter en compétences. Si vous voulez, le licenciement ou la flexibilité dans le travail, encore une fois, peut être quelque chose d'extrêmement positif, y compris dans les parcours professionnels. Encore faut-il avoir cette ouverture d'esprit qui est de se dire je ne ferai pas toute ma carrière au même endroit, et surtout, ça n'est pas ni la société civile ni la société commerciale qui est là pour me sécuriser complètement mon emploi. Maintenant qu'il y ait des protections, vous voyez, qu'il y ait des alertes, des fusibles, c'est une excellente chose. On a bien vu que le modèle français est loin d'être le plus mauvais, et dès qu'on voyage, on est très heureux de revenir en France. Donc je ne veux surtout pas jeter le modèle, si on peut parler de modèle français. Je dis simplement, considérer que le licenciement n'est pas une sanction. C'est pas une sanction, c'est une situation, une évolution de situation. Or, aujourd'hui, employé, vous êtes sanctionné. Plus vous employez quelqu'un et plus vous l'employez longtemps, plus vous êtes sanctionné si jamais à un moment vous voulez adapter votre entreprise. Ça n'est pas un modèle supportable. Il faut obligatoirement qu'on arrive à comprendre qu'à un moment ou à un autre, il va falloir raisonner les choses autrement, et que dans les ressources humaines, puisqu'on en parle, on n'est plus dans la gestion du personnel, on est dans la gestion de ressources humaines. Les ressources humaines, comme les ressources en autres moyens, peuvent évoluer. Et ce n'est pas grave, il faut simplement bien le faire. Donc effectivement, le portage de droits, de formation, le portage, la possibilité de récupérer des droits au chômage, etc. Et je vais vous laisser la parole là-dessus, ce sont des choses très positives.
Bien justement, il est temps d'Entrepreneur le Live de faire un peu de pédagogie sur le contenu de cet accord. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans les entreprises ?
Alors, je vais vous parler de ce que j'ai obtenu pour les salariés, parce qu'effectivement, vous avez une volonté exprimée d'un chef d'entreprise plutôt jeune, plutôt fonceur, je vous le dis. Mais moi, je défends des salariés qui sont des jeunes, des mi-jeunes et des moins jeunes. Et la souffrance des seniors face à l'emploi, elle est quand même pas neutre. Et quand vous regardez la première phase qui est constituée de rupture conventionnelle, et on s'aperçoit qu'elle porte surtout sur des seniors de 50 ans parce que leur employabilité n'a pas été préparée et qu'ils restent beaucoup plus longtemps au chômage, c'est pour ça qu'on a organisation syndicale, SFECGC, tout autant parce que l'encadrement souffre des process et des méthodes de travail actuelles et du rythme plus rapide des évolutions des sciences et des techniques. Donc tout ça est très compliqué pour les gens qui sont salariés et salariés longtemps dans l'entreprise. Donc mon rôle, il est là de défendre ces gens-là.
Donc concrètement,
la vigilance, concrètement, elle est sur ses droits.
Et alors concrètement, voilà. Qu'avez-vous obtenu ?
Concrètement, eh bien, on a travaillé, on a obtenu un compte personnel de formation, ce qui est, vous l'avez rappelé, extrêmement important, une très bonne chose.
Donc on passe, pour bien comprendre, concrètement dans l'entreprise, je suis salarié, je passe d'une entreprise à une autre, je ne perds pas mes droits de formation.
Je conserve mes droits à la formation et en plus, je peux essayer de les abonder ou de les faire travailler pour obtenir plus de formation qualifiante, plus d'employabilité pour évoluer dans sa propre carrière plutôt que d'évoluer dans l'entreprise. Voilà. Il y a aussi, ce qui est important, puisqu'il a été demandé par la CFE-CGC, un droit à sortir de l'entreprise pendant 2 ans et d'y revenir si l'expérience n'a pas été bonne. Moi, ça me semble
quelque
chose...
Pour les entreprises de plus de 300, je crois.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que dans un accord interprofessionnel, on travaille pour les grosses entreprises et pour la première fois, on a essayé d'adapter...
Ce qui représente au final moins de salariés.
Alors, non, ça ne présente pas moins de salariés. Je dirais que le stock de CDI est plutôt plus important, mais la rotation, la créativité et l'embauche, elle se fait de plus en plus via les petites entreprises puisque les opérations de restructuration des grosses laissent toujours des gens.
Alors, ça veut dire qu'on peut partir de son entreprise en tant que salarié pendant 2 ans et décider au bout de ces 2 ans qu'on peut revenir ou
oui,
pas.
Alors, attention, excusez-moi, j'interviens là-dessus parce que ça fait très peur à certains patrons. On dit, attendez, j'ai un collaborateur, il va aller travailler chez le concurrent et puis quand il en a assez, il revient chez moi, ça peut pas marcher. C'est pas du tout ça. L'accord est intelligent là-dessus. Il dit bien avec l'accord de son employeur. Oui. C'est-à-dire, c'est un accord bipartite. C'est l'employé et le patron et l'employeur qui décident ensemble que c'est quelque chose de possible. À ce moment-là, ils décident du délai, ils décident des conditions, etc. Donc, comme ça laisse la liberté d'une transaction, mais d'un accord, d'une décision collégiale, c'est une bonne décision. Ça aurait été un choix unilatéral du salarié, c'était absolument non mettable en application, si vous voulez. C'est pas très français.
Mais c'est riche pour rendre un marché du travail plus fluide.
Sur le travail à temps partiel, vos avis respectifs ?
Ah ben je pense qu'on a fait des véritables progrès. Si vous voulez, si vous regardez l'augmentation effectivement des contrats courts, et je préfère pas qu'on parle de précaire parce que sans ça, précaire c'est toujours négatif. Or, c'est vrai que ça peut être précaire, mais en même temps, il faut bien remplir tous les métiers qui ont besoin de contrats courts. Maintenant, la logique étant, ce que je comprends tout à fait, parce qu'on est, moi, je suis père de famille, et puis j'ai une vie, etc. On a besoin quand même d'avoir une certaine visibilité. Donc, il fallait éviter la multiplication, alors sachant que c'est quand même l'État qui fait quasiment le plus de contrats courts répétés. Hein. Mais enfin, ça, curieusement, on évite le sujet. Il fallait éviter tous les contrats. Je crois que 75% des contrats de moins d'un mois font une semaine. Je crois avoir entendu cette statistique. Et ça va leur coûter en plus l'augmentation de cotisation ACEDIC, ça va leur coûter 3,60€ ou quelque chose comme ça sur ces contrats-là. Autant dire, pas grand-chose, mais c'est normal qu'ils y contribuent. Et c'est plutôt bien d'essayer de favoriser des contrats plus longs. Maintenant, si vous regardez, il y a une véritable avancée. C'est que pour tous ceux, et ça c'est l'avancée qui me paraît pour moi l'une des avancées majeures. Il y en a une autre que j'ai énormément soutenue qui concerne les licenciements économiques. Mais il y a une avancée très importante pour les contrats à temps partiel. C'est que quelqu'un qui monte sa société, au début, il n'a personne, il est tout seul, il travaille comme un fou. Et puis à un moment, il se dit, tiens, j'aimerais bien avoir un collaborateur, une collaboratrice de plus. Il ne peut pas la prendre à plein temps. Donc il va la prendre à mi-temps. Il va la prendre pour 20 heures. Et puis son activité se passe bien. On n'a tous qu'une envie, c'est que son activité se passe bien. Jusqu'à maintenant, immédiatement après, dès qu'il était obligé d'augmenter le compte...
D'une heure, 2 heures,
trois heures, il passait à 25%. Un quart de plus. C'était colossal. Le résultat, il ne le faisait pas. Donc, il ne créait pas plus d'emplois. La personne qui était déjà en place n'avait pas cette possibilité. Aujourd'hui, avec la possibilité de faire des avenants qui vont permettre de rester dans le même montant que le coût horaire normal sans être obligatoirement en heure complémentaire, parce qu'on n'est pas en supplémentaire dans ce cas-là, c'est une excellente chose pour l'entreprise et l'emploi.
Donc la plupart des orientations dont on vient de parler concernaient les nouveaux droits pour les salariés afin de sécuriser les parcours professionnels. Passons au grand chapitre de l'accord visant à donner aux entreprises les moyens de s'adapter aux problèmes conjoncturels et donc de préserver l'emploi. Il y avait donc les accords sur le maintien de l'emploi.
Oui, c'est le cœur de la rencontre entre les attentes du patronat de pouvoir accompagner la baisse d'activité et donc forcément la baisse de rémunération et la manière dont, alors là, la CFE-CGC, on a été effectivement très moteur sur cet accord parce qu'il n'était pas question de les faire de manière insécurisée comme c'est en train de se produire depuis des mois. Donc on a tenu absolument à ces sécurités.
Donc c'est-à-dire que dans l'entreprise,
chômage partiel,
voilà,
c'est ça.
Typiquement.
Chômage partiel et baisse d'activité parce que ça implique la baisse de salaire. Donc si le salarié refuse, pour des raisons de vie personnelle, pour des raisons de charge salariale, il était obligé d'être licencié. Donc on a obtenu effectivement qu'il ait un licenciement économique, mais on a obtenu aussi que cette période de baisse d'activité pour aider le chef d'entreprise, elle ne dure que 2 ans, avec des clauses à bonne fortune. Donc je considère que c'est l'exemple typique et symbolique et nécessaire en économie où là, les organisations syndicales et les organisations patronales ont fait un chemin l'un sur l'autre.
Et puis ça va pouvoir permettre de s'adapter maintenant à des plus petites entreprises, alors qu'avant, si vous voulez, ce cadre
de
chômage partiel ou autre ne s'adaptait que pour les grandes entreprises. Et là, justement, enfin, on va pouvoir l'imaginer dans une certaine souplesse et une réactivité que va pouvoir avoir la PME.
Vous évoquiez tout à l'heure la question de l'ordre des licenciements.
Des licenciements économiques?
Oui.
Ah oui, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait bondir. Si vous voulez, les
il
trois...
Il me fait bondir dans le sens inverse.
Non, mais c'est...
mais
je peux, imaginer, mais si vous voulez, j'ai eu à procéder une fois à un licenciement économique. Donc, j'ai vécu ça. C'est une véritable douleur. Si vous voulez, quand on se lève le matin, on se lève pas pour se dire... Et quand on embauche des collaborateurs, c'est pas pour se dire, je vais les virer demain. Donc, on les forme, on investit avec eux, ensemble, et on n'a qu'une envie, c'est de les garder. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments, 2008-2009, croyez-moi, ça a été brutal. Et vous avez trois critères principaux. Vous aviez trois critères principaux. L'âge, l'ancienneté, la charge de famille. Aucun critère qui a un intérêt pour l'entreprise. Je ne vous dis pas aucun critère qui a de l'intérêt. Je vous dis aucun critère positif pour l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on avait? Une véritable discrimination à l'embauche des jeunes. Mais ça, tout le monde s'en fiche, parce qu'on est quand même dans un pays très égoïste. Il suffisait de voir pour le système de la retraite. Nos enfants, on s'en moque. Ce qu'on veut, c'est préserver nos avantages. Donc, quoi? Les miens, non, parce que je n'aurai pas de retraite. Et donc, enfin, vous avez le mot compétence qui est rentré en ligne de compte. Alors, on va voir comment ça va s'appliquer.
Ah oui, parce vous y perdez toute l'objectivité. Comment on définit les compétences? Mais
je ne pense pas. Mais si vous voulez, l'âge, la charge de famille, l'ancienneté, ça n'a aucun intérêt pour l'entreprise. Or, l'entreprise est en situation économique difficile. Donc, elle doit se rebooster. Ce qui compte pour elle, c'est d'avoir, ça peut être, quel que soit l'âge, on s'en moque de l'âge, ça peut être une personne, un senior, moi j'ai 47 ans, donc je suis senior déjà, donc je suis concerné. Ça peut être un senior, ça peut être quelqu'un de tout jeune qui vient de rentrer. Ce qui compte, c'est ce qui va faire que l'entreprise va booster, parce que c'est comme ça qu'on va sauver tous les autres emplois. Et résultat, vous voyez régulièrement des sociétés qui ont coulé, parce que dès qu'il y avait un licenciement économique, on savait que l'entreprise derrière était morte. Je pense que si enfin on fait confiance au patron, et qui mieux qu'un patron, c'est ce qu'il faut pour son entreprise.
Je ne peux pas vous dire ça. Parce qu'à quand
Marie-Françoise Lechant.
Je ne peux pas vous laisser dire ça.
C'est
l'un des articles que j'ai essayé de faire enlever, comme celui sur lequel on prévalait, fait prévaloir le fond sur la forme. J'en ai fait enlever un. Je n'ai pas enlevé celui-là, mais celui-là, je peux vous assurer qu'on est effondré de l'avoir. C'est peut-être l'échec de la CFE-CGC sur ça. C'est comment on passe de critères objectifs, quels qu'ils soient, même si vous avez raison sur le fond de la réalité. Mais comment vous faites à compétence égale entre une personne et l'autre? L'une sera plus souple, l'autre parlera un langage plus proche. Je veux dire, vous passez de l'objectivité à la subjectivité. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire passer chez nous parce que c'est viscéralement aller vers le plus fort dans un monde actuel qui est douloureux par rapport à celui qui est le plus faible.
Vous pensez pouvoir être objectif justement sur ces critères de compétences?
Alors déjà, vous savez, la première chose, c'est... Est-il possible de faire confiance à un patron? C'est un problème. La France n'aime pas ses patrons et n'aime pas ses entreprises. Excusez-moi, je vais aller au bout. Et tout votre discours, c'est le reflet, si vous voulez, de décennies de dogmatisme quand même sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance à nos patrons. Je suis navré, un patron est objectif pour son entreprise, tout simplement parce que c'est son intérêt. Son intérêt à agir, c'est que son entreprise tourne. Et donc, si vous voulez, c'est un non-sens économique de vouloir obliger de garder des personnes à travailler ensemble quand elles n'en ont pas envie. La solidarité nationale, et là je suis un fervent défenseur de ça, la solidarité nationale est là pour protéger les plus faibles ou les personnes qui seraient mises sur le côté, pour leur donner de l'employabilité. D'ailleurs, remarquez, on ne parle plus de sécurité, on parle d'employabilité. Depuis tout à l'heure, vous aussi vous utilisez le mot employabilité. On fait des progrès fantastiques, on va continuer comme ça. Eh bien, de la même façon, dans une entreprise, faisons confiance aux patrons qui gèrent leur entreprise. Dans le cas d'un licenciement économique, on va choisir. On va être obligé de se dire, on doit se séparer d'X personnes, sur ces X personnes. Pourquoi le patron irait de façon subjective et négative choisir plus Martin que Dupont? Il va aller choisir Martin, s'il dit ça sera Martin, c'est parce que Martin est moins intéressant pour lui. Il ne va pas aller scier la branche sur laquelle il est assis. Par contre, si quelqu'un de l'extérieur, que ce soit un syndicat, que ce soit l'inspection du travail, que ce soit un juge, vient lui dire, monsieur, ce sera Dupont plutôt que Martin, alors là, s'il y a de la subjectivité, elle est bien là. Les seules personnes qui n'y connaissent rien à la vie de l'entreprise viennent dire ça ne doit pas être un tel et un tel. Non, il faut que ce soit en dialogue, et d'ailleurs il est bien marqué dans l'accord que c'est en accord avec les membres du CE, etc. Donc il y a un dialogue, et ça le dialogue c'est une chose importante, mais il faut que ça reste dans l'entreprise. Il n'y a que l'entreprise. Moi quand j'ai eu à le faire, c'était un déchirement. Je ne pouvais pas faire autrement que de virer les personnes les plus compétentes qui venaient de rentrer dans mon entreprise.
Je vous trouve sévère parce que...
C'est du vécu, hein, madame.
Oui, et je le reconnais et vous avez raison et je l'entends. Mais il faut aussi que vous entendiez le rôle, non pas de dogmatisme. Parce que je pense qu'on a prouvé dans cet accord qu'on a fait beaucoup d'efforts pour vous accompagner. Simplement, je pense que cet article n'était pas nécessaire à l'équilibre de l'accord que nous avons cherché parce que nous vous avons accompagné sur toutes les difficultés économiques, sur tous les accords sur la mobilité, sur les baisses de compétitivité. On avait fait les efforts qu'il fallait. Donc, je dis et je maintiens que pour nous, sans jugement de valeur, sans dogmatisme, cet accord n'était absolument pas nécessaire.
Un mot, si vous le voulez bien, très rapide, sur les délais de prescription au prud'homme.
Là, on va revenir à un débat...
Un débat sur lequel je pense qu'on n'est pas parfaitement d'accord. Parce que, bah oui, pour une raison très simple, si vous voulez,
c'est pas mon objectif.
Vous avez une épée de Damoclès et vous avez une injustice patente, c'est que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec un collaborateur qui est là depuis 2 ans pour X problèmes. Vous êtes obligé de vous en séparer. Vous ne savez pas ce que va décider le tribunal de prud'homme. Vous pouvez vous en avoir pour 2 ans de salaire à lui verser, alors qu'il a quand même été payé pendant ce temps-là, d'indemnité. Donc, en gros, gérer une entreprise, gérer un budget, c'est quelque chose que tout chef d'entreprise fait. Il se fait un budget en début d'année. Aujourd'hui, en droit social, on ne peut pas se faire un budget. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé si jamais on a une difficulté. Donc, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait des plafonds. Il faut qu'il y ait des choses raisonnables, si vous voulez. Sinon, c'est de l'enrichissement sans cause. C'est une notion qui est retenue pour certains, dans certains sujets. Ce n'est pas retenu pour ça. Mais permettez-moi quand même de dire... Bon, moi, je pense que l'accord sur la partie du licenciement économique, encore une fois, pour les TPE et surtout pour les PME, c'est un excellent article, au contraire, parce qu'on change la donne. Mais je ne sais pas si vous avez parlé tout à l'heure de la mutuelle. Parce que je pense que ce sera quand même un des sujets, il faudra en parler, parce que ça concerne tous les salariés, et ça, c'est du quotidien. Et ça, vous représentez les cadres. Moi, je m'insurge depuis des années, je fais partie de ces quelques patrons qui s'insurgent, sur les différences qu'on faisait en France, c'est toujours la notion d'avantage acquis, vous savez. On fait partie d'une caste ou de quelque chose comme ça. On faisait une différence entre les cadres et les non-cadres. À quel titre est-ce que se nourrir, se déplacer, se soigner coûte plus cher chez un cadre que chez un non-cadre? Dans mon entreprise, depuis toujours... J'ai mis la mutuelle, pareil pour tout le monde. J'ai mis la participation égalitaire pour tout le monde. Le salaire fait la différence. Le reste, je trouve ça totalement inique de dire aux gens, non seulement vous en avez certains qui ont un salaire supérieur parce qu'ils ont une fonction, ils ont des responsabilités, tout ça, mais en plus, tout le reste reste variable aussi au niveau du salaire. C'est pas normal.
Ah bah Marie-Françoise Leflon, les cadres, non cadres.
Heureusement que je représente un syndicat qui représente les cadres. Et avez-vous une idée des conditions de travail dans lesquelles... Les cadres travaillent vraiment si on les responsabilités qu'ils prennent, les heures de travail, le stress, les injonctions différentes, Tout ça, quand même, vous pouvez pas l'ignorer. Sinon, c'est très facile. On a un statut commun. Telle heure, on finit à telle heure. On n'a pas de responsabilité. Enfin, je veux dire
vous avez des cadres intégrés qui sont aux 35 heures.
Vous êtes en train de stéréotyper le cadre.
Ah, surtout pas. Je les aime trop.
Qui est un encadrant. Enfin, vous pouvez pas lui enlever du jour au lendemain tout ce qu'il a acquis de par ses diplômes, de par ses aptitudes qu'il a développées, sa réactivité.
Du coup, vous diriez, Marie-Françoise Lefond, qu'il faut différencier en termes de mutuelle les cadres des non-cadres.
Ben, en tout cas, leurs droits ne sont pas les mêmes, mais ils cotisent à du concurrence. Il y a des cotisations prévues pour leur statut qui sont négociées et ça ne fait pas partie de cet accord. On couvre par cet accord, effectivement, et c'est une très bonne chose d'acquérir des droits pour les gens qui ne sont pas couverts à l'heure actuelle. Mais d'abord, sur l'écriture de cet accord, nos services de protection sociale ont décelé des ambiguïtés. Donc, je ne voudrais pas détailler quelque chose ici qui a été écrite. Et c'est l'urgence des accords, mais qui va devoir être travaillé dans un groupe paritaire. Bon, ça, c'est une chose. L'idée d'acquérir un droit, c'est fondamental, c'est extrêmement important. On fait partie des organisations signataires de l'accord, donc il n'est pas question de le contester. Je dis simplement qu'il ne s'agit pas d'en profiter pour remettre en cause le statut de l'encadrement, qui est quelque chose d'acquis depuis toujours, conforté par la représentativité et qui correspond à une vraie réalité.
Non, mais loin de moi, si vous voulez, vous imaginez bien que mon discours n'est pas de dénigrer les cadres. Au contraire, vous imaginez, on a beaucoup trop de difficultés à trouver aujourd'hui en France des personnes qui veulent s'impliquer, qui veulent travailler, puisqu'on leur a expliqué quand même pendant des décennies que ce qui avait de la valeur, c'était les fesses assises sur une chaise, puisque c'était le temps de travail uniquement qui avait de la valeur. Moi, je considère que c'est le travail. Mais c'est une grande différence, si vous voulez. Donc effectivement, forcément, j'aime bien mes cadres. Faut quand même pas oublier, si vous voulez, qu'on a quand même mis deux statuts, c'est extrêmement difficile à expliquer à des collaborateurs, le statut cadre autonome et le cadre intégré. Les collaborateurs n'y comprennent rien dans les petites entreprises, hein. Mais quand il faut compliquer le droit du travail, on est quand même champion du monde. Donc on a des cadres intégrés qui sont des gens qui sont autour de 35 heures et on a des cadres autonomes qui, eux, sont, alors certains disent corvéables à merci, mais en tout cas qui effectivement font beaucoup d'heures. Ça n'a strictement rien à voir avec la mutuelle. Le fait, et c'est très bien qu'il l'est, ce que je dis simplement, c'est que moi, je me réjouis. Je fais partie de ceux qui me réjouissent de considérer que la mutuelle va être mise en œuvre pour tout le monde, parce que je considère que la santé, c'est une affaire de tous. La seule chose, je voudrais juste qu'on se méfie, c'est qu'on n'aille pas nous remettre des mutuelles obligatoires dont on n'aura pas le choix. Deuxièmement, qu'on ne nous fasse pas des mutuelles familiales obligatoires à tout le monde, parce que comme ça, on cotise deux fois, et ça, les collaborateurs n'en veulent pas. Donc, il faudra simplement qu'on mette des risques minimaux. Et que tout le monde puisse en bénéficier. Qu'après, il y ait des possibilités de choses supplémentaires, ne me choque pas. Mais je ne comprends pas qu'on puisse effectivement considérer que la santé est une affaire qui ne concerne soit que les cadres, soit qu'une classe de population.
Eh bien, c'est le moment pour nous de passer aux questions flash. Alors, vous l'avez raté tout à l'heure, mais elle revient la question suivante. Au final, diriez-vous que cet accord sur l'emploi permettra d'inverser la courbe du chômage, comme l'espère François Hollande, avant la fin 2013?
Moi, je dirais oui, peut-être pas dans les proportions qu'il attend, à partir du moment où une très grande pédagogie est faite, je pense vis-à-vis des petites entreprises, notamment avec le travail partiel. À temps partiel, vous voyez, les 20 heures qu'on peut compléter.
Marie-Françoise Leflanc.
Moi, je pense qu'on ne le mesurera pas en 2013, parce que d'abord, il faut que l'accord se mette en place. Mais en tout cas, on va inverser la tendance et j'ose espérer que par les concessions des organisations salariées réformatrices et signataires de cet accord, cette espèce de blocage que vous avez senti dans notre débat va disparaître et que les employeurs n'auront plus peur d'embaucher. En fait, c'est ça qu'on leur donne. On sécurise les droits des salariés et on allège le droit du travail pour que les entreprises puissent embaucher. C'est ce à quoi je crois.
Vous estimez à quelle date le moment où tous les dispositifs prévus dans l'accord seront mis en place?
Je suis incapable de vous le dire, puisque ça va dépendre de leur mise en application. Il y en a certains qui vont être du ressort de la loi, d'autres qui vont être du ressort d'accords de branche. Les accords de branche, c'est ce qui est de pire, hein. Parce que c'est ce qui est le plus long à mettre en œuvre. Ça discute.
Et d'autres sous conditions de financement.
Et certains sous conditions de financement.
Mais on a mis des taquets. Le chômage partiel, on va démarrer dans 15 jours. D'autres, on a donné un taquet jusqu'à la fin 2013.
Il y a eu du rythme, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de rythme. Là, il faut reconnaître quand même que toutes les associations syndicats ont travaillé vite.
Rapidement, pensez-vous que les médias ont suffisamment relayé l'information et le contenu de l'accord sur l'emploi ?
Moi, je dirais, excusez-moi, alors vous étiez aux négociations, vous pourrez en parler mieux que moi, mais j'étais observateur. Je pense qu'il y a eu une discrétion nécessaire, et c'est tant mieux. Parce qu'ils auraient... Alors maintenant, il faut qu'ils le relayent, mais il faut qu'ils le comprennent.
C'est l'objet de ma question.
D'accord. Avant, c'était bien, parce que s'ils l'avaient plus relayé pendant le temps des discussions, ça aurait sans doute provoqué des blocages par des incompréhensions, parce qu'il a fallu affiner. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est beaucoup de pédagogie.
Oui, mais en même temps, ce que je regrette, c'est que justement, il n'y ait pas eu un éclairage de ce qu'est cet accord et de ce qu'il ouvre et de ce qu'il change. Parce qu'il y a les salariés, il y a les demandeurs d'emploi, il y a les gens en travail précaire, comme vous l'avez dit. C'est des gens pour qui on a construit des vrais droits. Et le passer de manière anonyme ou anecdotique ou comme ça...
Ah, Monsieur Sapin, comme dit, quoi, notre ministre a quand même dit que c'était un accord historique, je crois, ou très important.
Bon, moi, je dis qu'il est important pour le marché du travail. Ça veut dire pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi et pour les gens fragilisés en état de situation précaire. Donc, il faut de la pédagogie, mais il aurait fallu très vite le dire parce que c'est quand même la première fois
où les
partenaires sociaux fabriquent un truc pour tout le monde. Alors c'est important quand même.
Un accord important donc, et c'était important pour nous de vous recevoir sur le plateau de We Do Biz d'Entrepreneur Le Live. Un grand merci à vous, Marie-Françoise Leflon, je le rappelle, secrétaire nationale chargée de l'emploi à la CFE-CGC, également présidente de l'APEC. Vous représentiez donc votre syndicat qui a pris part aux négociations. Était également avec nous Éric Malenfer, président du groupe J'Expertise, 80 salariés, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, et vous participiez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au comité et session dit miroir pour donner l'avis des PME. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Merci.